Radio Octopus. Écho des développements.
Chers auditeurs et auditrices, bienvenue à ce nouveau numéro des Codes du développement, votre magazine de promotion des questions de l'environnement et de développement durable qui s'intéresse au forum sur les changements climatiques dans la province du Kwilu. Je suis Tati Mapoukou, Jean-Marc Matoua qui coordonne et supervise ce numéro, Bob Landou s'occupe de la prise des sons. Toute l'équipe vous souhaite une très bonne condition d'écoute de ce numéro.
Développement, une émission qui touche à votre environnement immédiat. L'agriculture, l'économie verte, les questions liées au changement climatique et tout ce qui touche au développement durable. Les causes, les conséquences, les pistes de solutions aux problèmes qui affectent la planète, c'est dans Écho du développement. Suivez cette émission tous les jeudis à 9h15 et 20h30. En rediffusion le samedi à 13h05.
Merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix. Des forêts en lambeaux se trouvant à proximité de la ville de Kikwit, dans la province du Kwilu, sont menacées de disparition en raison de la forte demande en bois d'échauffe et en bois énergie. Cela entraîne la rareté des produits forestiers non lignés, la perturbation des saisons et la baisse du rendement agricole dans le Kwilu sont aussi liés aux pratiques qui ne contribuent pas à la protection de l'environnement. Quels sont les autres facteurs qui accentuent les phénomènes du changement climatique dans la province du Kwilu? Quelles solutions alternatives proposer aux communautés locales pour réduire la forte demande en bois d'échauffe et en charbon de bois dans la province du Kwilu? De plus amples informations, vous les aurez au cours de ce numéro des Codes du développement. Nous débutons notre magazine par les témoignages de Monsieur Jean Moupépé, un habitant de la ville de Kikwit. Selon ses promoteurs d'école, des constructions anarchiques et la coupe incontrôlée des arbres occasionnent les changements climatiques et la rareté de certains produits issus des forêts dans les marchés de la ville de Kikwit. Nous allons l'écouter.
La ville est bâtie sur un plateau. La population n'a plus respecté les limites fixées par les Belges au-delà desquelles on ne pouvait pas construire. Parce que là, il y avait des versants, différents versants. Nous sommes sur un plateau, il y a un versant vers Kanzombi, un versant vers Kikwit 3, au-delà desquels on ne pouvait pas construire. Les gens ont construit. Et ils ont même cassé les murs en pierre que les Belges ont laissés. Alors, puisque les canalisations qui devaient évacuer les eaux n'ont pas respecté, n'ont pas suivi ce que nous avons fait comme lotissement après, toutes ces eaux-là ruissellent partout en divagation et ravinent la ville. D'ailleurs, si tu circules, malheureusement, tu es venu par véhicule. Si tu venais par avion, c'est comme si tu survolais l'aéroport de Kananga ou de Mbujimayi. Tu vois toutes les têtes d'érosion avec toutes ces crevasses. Et tu dis, ça, c'est un corps tailladé en mille morceaux. Je ne suis arrivé ici qu'en 1974. Il y avait encore quelques vestiges de forêt ou de ce qu'il y avait comme végétation qui pouvait présenter qui pouvait représenter ce que les forêts étaient. On pouvait encore avoir du gibier plus près de Kikwit ici. Mais on a déboisé, on a fait des champs, on a construit un loti. Les forêts se sont éloignées. Donc, pour le moment, tout autour de Kikwit, vous n'avez que la petite brousse. On ne peut même pas dire la savane, la petite brousse. C'est dangereux. Et maintenant, les gens sont obligés d'aller très loin pour aller faire des champs.
Monsieur Jean Moupépé n'est pas le seul à faire ce constat. Blaise Mpoupou, un autre habitant de la ville de Kikwit, soutient que si rien n'est fait dans les jours à venir, le chef-lieu de la province du Kwilu va disparaître de la carte géographique de la RDC.
Il y a beaucoup de chances que la ville de Kikwit puisse disparaître. Comment ? Concrètement, il va y avoir beaucoup de précipitations. Comme le sol est à nu, et il y aura, ça va éroder les sols. Il y aura beaucoup d'érosion, ça qui va enfoncer la ville de Kikwit à l'érosion. Pas seulement ça, il n'y a pas de drains, il n'y a pas de caniveaux. La ville n'est pas urbanisée. Et tout ce qu'il y a eu comme Belge a construit anciennement, il n'y a plus de drains. Mais non seulement ça, il y a beaucoup de constructions sur la colline.
Sur les versants de la colline.
La colline.
Sur la pente de la colline.
Avant Tati, cette partie-là, après la ville basse, c'était une bande des forêts où on pouvait pas même le construire. Mais et les parcelles, là encore un autre problème. Les parcelles du plateau étaient grandes, il n'y avait pas beaucoup de construction. Maintenant, si vous devez compter, c'est doublé par 3, même par 4. Alors maintenant, ces eaux-là qui tombent sur les maisons, ils sont drainés sur le sol. Alors ça donne des grandes eaux qui coulent, qui descendent sur la ville basse. Pas difficile. En fait, quand tu parles de difficile, c'est impossible. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas canalisés. Ils ne sont pas canalisés. Alors ça tombe sur la ville et il y a de la boue. Mais plus grave encore, plus grave. Et nous interpellons vraiment au niveau national, les ponts Kwilu, j'insiste, c'est le pont qui relie la province de Kwilu, de Grand Bandundu et Kinshasa, et les autres provinces Kasaï et Lubumbashi, donc Équateur, tout ça, notamment Lubumbashi et les autres. Mais ce pont-là a été construit de façon que les autres versants ne puissent pas donner de l'eau sur les ponts. Mais on a loti tout autour des ponts. Au point que maintenant, à chaque pluie, on a fait des émissions, il y a une charge très importante. Et tout autour du pont, vous allez voir ça, on a construit. Maintenant où je te parle, si on ne fait pas attention, les gens peuvent venir, les ponts vont s'écrouler. Et quand les ponts s'écroulent, Tshikapa, Kasaï, tout Kasaï, Lubumbashi, par la route numéro 1, est coupée. Et aussi, les greniers de Kikwit et de Kinshasa, c'est Nkara, les restes là. Il n'y aura pas de manioc ici. Il n'y aura pas de maïs. Et tout va être. La ville va avoir un problème et Kinshasa également.
Nous remercions ces deux Kikwitois pour leur réaction à chaud sur les maux qui rongent la ville de Kikwit. Les effets du changement climatique affectent toutes les régions de la province du Kwilu. Ce sujet a fait l'objet d'un forum qui a réuni les spécialistes dans le secteur de l'environnement et des entrepreneurs œuvrant dans les domaines des énergies renouvelables récemment à Kikwit, indique l'ingénieur Idriss Moufouka, coordonnateur du forum sur les changements climatiques dans la province du Kwilu.
On a constaté que les indicateurs sont réels dans la province sur la question du réchauffement climatique.
Et vous l'aviez annoncé, le forum a ouvert ses portes aujourd'hui.
Exactement, le forum a ouvert ses portes aujourd'hui avec un grand engouement. Il y a des entrepreneurs, des investisseurs qui travaillent dans les domaines des énergies renouvelables qui nous ont accompagnés. Ils sont avec nous ici parce qu'il faut dire que ce forum, au-delà des questions environnementales, c'était aussi une manière d'exposer la province auprès des investisseurs, c'est-à-dire c'est une politique de contact avec certains investisseurs qui n'ont jamais été à Kikwit. Et aujourd'hui, on peut dire que ce forum est arrivé à déboucher même sur certaines opportunités d'emploi. Il y a même parmi les investisseurs qui ont exposé aujourd'hui, ils ont accepté d'investir dans la province, d'avoir le bureau de représentativité ici. Et pour nous, c'est une grande joie et déjà à la première journée qu'on arrive à ces résultats. Mais il y a aussi la question de la sensibilisation de la population sur l'accès aux énergies propres. Il faut que la population du Kwilu se rende compte qu'il faut aujourd'hui utiliser non seulement l'hydroélectricité, mais penser aussi à d'autres sources d'énergie renouvelables, et surtout que la province a un potentiel, un degré d'ensoleillement très fort, elle a un potentiel en biomasse énorme, elle a un potentiel hydroélectrique énorme. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas de raison pour que la province soit dans les noirs.
Le chef lieu de la province du Kwilu subit de plein fouet les phénomènes du changement climatique. Sénat Léonard Kiangata, maire de la ville de Kikwit. Il salue également la tenue de ce forum qui va proposer des solutions devant concourir à la lutte contre les changements climatiques dans les Kwilu.
Kikwit subit de plein fouet les conséquences des changements climatiques. Et pratiquement, nous ne connaissons plus de petites saisons sèches, vous voyez. D'habitude, au mois de février, janvier-février, il y a une petite saison sèche. Mais voilà comment, au contraire, cette année, c'est la période des grandes érosions maintenant qui quitte.
On est arrivé hier la nuit, ce matin, il a plu abondamment.
Pratiquement, depuis 48 heures, la pluie tombe par intermittence. Et donc, Ce forum est vraiment le bienvenu, un premier. J'aurais souhaité même qu'on organise ça deux fois par an pour que la population, pour que les Kouilois et même les Congolais soient réellement sensibilisés sur les conséquences. Nous, dans la périphérie de Kikwit, quand vous passez, vous voyez des sacs de couleur blanche partout à gauche, à droite. Ce sont des sacs contenant des braises, des charbons de bois. Donc cela traduit la grande ampleur de la coupe de bois à Kikwit et dans les environs.
La reproduction des végétaux est le moyen pour les plantes de se développer et pour les arbres de faire des fruits. Ce principe de régénération naturelle des espèces végétales et animales n'est pas du tout respecté par la population de la province du Kouilou, d'après le professeur Alphonse Kapumba, expert en éthique environnementale. Cela a des conséquences sur les phénomènes du changement climatique qui sévit actuellement dans la province du Kouilou.
La population doit pouvoir respecter la vie, et la vie, elle passe par la forêt. La forêt est très importante, comme l'a expliqué tout à l'heure les collègues, le professeur Massinci. Parce que si vous n'avez pas, vous ne captez pas l'oxygène, vous ne stockez pas le carbone, ce qui vient, c'est l'effet de serre. L'effet de serre bloque, il y a des grands changements climatiques. Donc c'est par rapport à cela qu'il faut créer des vulgarisateurs, des sensibilisateurs, notamment dans un programme provincial qui doit pouvoir inciter ces paysans à pouvoir penser à d'autres stratégies, à d'autres alternatives. Ce qui compte, c'est un pis-aller en fait des solutions qu'ils prennent. Ils comprendront peut-être, mais n'auront pas d'autres. D'où l'intérêt à moderniser cette agriculture-là, qui peuvent être à des petites surfaces, mais qui produisent assez. Et alors, on peut, je crois, trouver des solutions dans une sorte d'inventivité, et des politiques communes doivent être bien croisées pour qu'on arrive à cela.
Pour le cas de la province du Kouilou, quelle alternative concrète, clé en main, proposée, professeur?
Bon, il y a beaucoup d'alternatives, en fait. Si je peux prendre le risque de les inventorier, il y a beaucoup d'alternatives. La création des emplois est une bonne alternative. Quand, par exemple, disparaissent les forêts, on peut créer, replanter les forêts, les villageois seront occupés. Vous voyez, il y a quelques temps, un de nos gouverneurs a fait la politique agricole en plantant, mais il n'a pas eu des experts pour faire ce travail-là. Alors, il faut aussi utiliser l'expertise des universités, des instituts formés à cet effet-là pour pouvoir, en fait, donner... Il faut précéder ça d'un travail théorique et, enfin, arriver à une mise en exécution de ce qu'on a inventé ou trouvé. Alors, vous pouvez faire beaucoup de choses. Par exemple, les gens qui font les briques cuites, là, ils utilisent le bois. Mais on peut, si on a des possibilités d'électrifier, on peut faire ça autrement. Alors, si on parlait par exemple de cuisine ou de, je sais pas, tout à l'heure là, qu'on peut utiliser,
améliorer
comme ils appellent. Mais tout ça, ça peut se faire. Mais ce qu'il faut, c'est des entreprises. On dirait que dans les Bandundu, on a horreur à créer des entreprises. On reste nostalgique au PLZ, c'est ce soir-là, mais il ne faut pas rester nostalgique. Il faut aller dans l'inventivité, il faut trouver des petites entreprises, même d'assainissement d'ailleurs, on a difficile même à faire ça. Donc on doit arriver à des petites entreprises, et parmi ces entreprises, on peut avoir celles qui donnent du travail aux gens. En leur donnant du travail, ils vont éviter de vivre comme des paysans d'il y a 20 siècles. Parce que j'ai entendu, il y a des collègues qui ont dit non, nos parents, mais moi, je ne partageais pas ce point de vue-là, parce qu'ils n'avaient pas les mêmes problèmes. Ils avaient des huttes, des maisons en paille, qui absorbaient l'eau, qui ne détruisaient pas l'environnement, mais nous avons des quantités d'eau avec les tôles. Et alors, parfois, ils ne sont pas, le gouvernement devait faire en sorte que ces gens mettent des rigoles, mettent des gouttières pour qu'on recueille l'eau, mais il n'y a pas un effort dans ce sens-là. Alors, chacun fait ce qu'il veut, alors quand on fait ce qu'il veut, on veut, alors on retrouve des résultats personnels, il n'y a pas une cohérence en termes de politique régionale.
Okapi Service. Le magazine de la vie au quotidien est à votre service. Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 10h05 à 11h sur Radio Okapi.
Vous êtes en train de suivre Éco du Développement, votre magazine qui traite les questions de l'environnement et de développement durable. Nous abordons aujourd'hui un sujet sur les changements climatiques dans les Kouilou. La protection de l'écologie figure dans les programmes du gouvernement provincial, selon Bénédicte Kiangata, ministre provincial de l'environnement, énergie et des hydrocarbures.
C'est quelque chose que nous avons toujours rêvé, par souci de notre province d'abord, et le souci de garder notre environnement sain, de lutter contre les changements climatiques. Ce forum est en plus pour la province.
Et dans votre exposé, vous avez tablé sur la promotion à l'accès à l'énergie au niveau de la province du Kulu. Comment comptez-vous vous y prendre exactement?
Avec l'appui des partenaires et aussi avec la volonté politique, nous allons y parvenir. Et aussi, vous savez que l'énergie est source de développement. Nous voulons voir notre Kulu développé. Et nous avons vraiment besoin, nous avons les soucis que tout Kulois soit ait accès facile à l'énergie électrique.
Oui, tout ça pour décourager la coupe de bois. Vous avez également encouragé également la population du Kulu à reboiser et à éviter des pratiques qui nuisent à l'environnement.
Bien sûr, j'ai parlé d'un slogan, Jengamo Shikuna Zole, c'est une façon de dire que quand on coupe, on doit reboiser pour redorer notre province de couleur verte. Parce que si on a un Kulu vert, notre environnement sera sain. Ça va profiter au Kulu et ça profite aussi à la planète tout entière.
Le déboisement dans la province du Kulu est une pratique irréversible, ajoute Alphonse Kapumba, expert en éthique environnementale. Il faut cependant réduire la fréquence du déboisement par des méthodes alternatives, ajoute ses spécialistes.
Cette déforestation ne peut pas aller au taux zéro, donc elle est irréversible, mais seulement il faut la ralentir par une technique moderne dans les pratiques qui se font, mais aussi par l'usage des politiques gouvernementales appropriées pour apporter à cette population qui n'a pas l'information directe à pouvoir changer le mode de vie.
Mais est-ce que cet incident, c'est sur l'économie de la population des Kulu, des Kikwit, est positive ou négative, professeur?
Je dirais même négative, parce qu'au fond, c'est une province qui n'a pas beaucoup de moyens. Et même quand pour cette déforestation, les braises, les maniocs, tout ce qu'on vend, disons, comme produit tiré du sol, c'est ce qui alimente l'économie de la province. De ce point de vue, c'est gagné pour la province. Une taxation, c'est normal. Mais du point de vue de la protection de la biodiversité ou de la forêt en tant que matrice essentielle de notre vie, cela pose un réel problème.
Et cela demeure un paradoxe, professeur, parce que ça fait longtemps la population elle est dans cette pratique pour satisfaire la demande des grandes villes comme Kinshasa, en charbon de bois, en bois de chauffe, en maïs, en cossette de manioc, mais ces ménages restent vulnérables économiquement depuis la nuit des temps. C'est tout un paradoxe, professeur.
Oui, c'est un paradoxe, mais en fait, c'est des petites quantités, c'est pas une agriculture intensive, où on produirait des grandes quantités, il s'agit de petites quantités qu'on vend, mais les besoins réels de la population restent importants. La scolarisation des enfants, ça coûte cher, donc finalement, c'est une précarité permanente, donc si on ne porte pas attention, d'ailleurs, qui dit économie, voit rentabilité, voit augmentation d'argent. Mais quand on voit progressivement ce que font les gens, on a l'impression qu'en fait, ils font un travail à épuisement.
La promotion des énergies renouvelables dans les ménages de la province du Kulu est une meilleure alternative car les ENR remplacent les énergies polluantes que bon nombre des familles utilisent dans la ville de Kikwit. Les kits solaires sont une technologie qui rend des services énormes dans la lutte contre les changements climatiques, affirme l'ingénieur électricien Eyal Zembal, cofondateur des kits solaires For Africa.
Les kits solaires permettent justement de remplacer toutes les énergies polluantes qui permettent aujourd'hui de produire l'électricité comme les générateurs ou par exemple l'utilisation des huiles paraffines pour les huiles de pétrole pour l'éclairage des maisons. Donc les kits solaires permettent vraiment de remplacer toutes ces énergies non propres et qui coûtent très cher à la population par des énergies renouvelables qui sont les kits solaires, l'énergie du soleil.
Et quels sont les produits que vous proposez aujourd'hui à la population du Kulu? Et vous, dans l'exposé, vous avez présenté les déploiements de votre entreprise à travers les pays et en Afrique centrale notamment. Quels produits, quels services proposez-vous aux communautés?
Donc, effectivement, les kits solaires sont des solutions tout à fait adapté à tous ces problèmes et aux problèmes d'accès à l'énergie. Mais le problème de ces technologies-là sont les coûts d'acquisition pour les populations. Et donc, nous avons décidé de travailler sur cette problématique et d'offrir à la population des échelonnements de paiement qui, pour l'instant, avec nos moyens, sont étalés jusque 6 mois. On espère j'espère bientôt avoir le soutien de la Banque mondiale et du gouvernement congolais pour pouvoir étendre ces périodes jusqu'à 12 mois et ainsi pouvoir toucher chaque Congolais, qu'il puisse avoir un kit solaire chez lui pour s'éclairer et regarder la télévision, en tout cas qui sont des besoins primaires pour chaque foyer.
Et pour les ménages, je vis les ampoules, je vis des téléviseurs, je vis des torches, donc c'est ce que vous proposez à la population locale. Et il y a également une proposition intéressante, je vis dans les diapos une chambre froide qui tourne avec des panneaux solaires.
Bien sûr, c'est l'occasion de le rappeler, ici à Kikwit, à la Kamebasu, donc la centrale d'achat des médicaments du Bandundu Sud, a été érigée la première centrale photovoltaïque pour chambre froide que nous avons érigée en 2013 et qui fonctionne encore jusqu'à ce jour et qui a permis de montrer l'exemple à toute la République pour permettre à l'OMS et au programme d'énergie de vaccination de reproduire ces projets-là. L'énergie photovoltaïque, elle permet toute forme d'utilisation, que ce soit pour gagner de l'argent, que ce soit pour conserver des médicaments, que ce soit pour regarder la télévision, que ce soit pour étudier à la maison, que ce soit pour cuisiner. Vraiment, le Congo a été béni par le soleil, que ce soit de Matadi où il y a plus de nuages, jusqu'à Goma à l'est.
Tout il y a beaucoup plus de vent avec les collines.
Voilà, il y a plus de vent, mais le pays a été vraiment béni par le soleil, par l'hydroélectricité aussi, je le rappelle, mais par le soleil aussi. Et le solaire a cette faculté, cet avantage qu'on peut produire l'électricité à l'endroit où on le consomme. Donc on ne doit pas tirer des lignes à haute tension, il n'y a pas de transport, il n'y a pas de vol de câbles qui font parfois vraiment partie des problèmes d'accès à l'énergie, comme on le voit bien avec la centrale de Kabokola, où il y a un problème de transport d'énergie jusqu'aux villes. Et donc c'est des problèmes qui ne se proposent pas, qui se posent pas avec ces technologies-là.
Et vous avez également souligné les solaires ne rivalisent pas l'hydroélectricité, au contraire, ce sont des énergies qui sont appelées à aller ensemble et complémentaires.
Bien sûr, tout pays qui aurait une politique énergétique basée sur une seule ressource est en grand danger, et on le démontre chez nos voisins zambiens qui avaient un parc équivalent d'hydroélectrique à celui de la RDC, mais qui est en train de régresser parce que le bassin s'assèche. Donc ça fait partie des problèmes de changement climatique. Il faut absolument intégrer l'énergie solaire pour avoir un mix et une sécurité énergétique pour toute la République.
L'usage domestique du gaz et des cuissons est l'une des alternatives à utiliser pour la cuisson dans les ménages afin de réduire sensiblement l'utilisation des bois de chauffe et des charbons de bois, ajoute Madette Manganza, chargée de communication de Coet Gaz, une entreprise spécialisée dans la production du gaz des cuissons en RDC.
Écoutez, je vais devoir m'acquitter d'un grand devoir, celui d'abord de saluer le frère RC de Kikwit, en particulier, en général, tous les consommateurs de Coet Gaz disséminés dans la ville de Kinshasa et tout prochainement dans d'autres villes du pays. Parlant de nos produits, des produits de la société Coet Gaz, nous avons, tel que vous êtes en train de le voir, les bouteilles en rouge et en bleu. Ne vous en faites pas, que ce soit de la bouteille en couleur bleue ou rouge, c'est du Coet Gaz. Et là, vous avez la bouteille de 9 kg, celle de 12 kg, et la toute dernière bouteille est la bouteille de 6 kg. Et la plus grande, comme vous la voyez là, c'est la bouteille de 45 kg, qui va mieux pour les appartements et des grands restaurants de la ville ou de campagne, parce que nous n'allons pas limiter la consommation de Coet Gaz dans des villes. Donc voilà, en dehors de ces quatre bouteilles, marques de bouteilles, nous avons aussi les réchauds qui vont avec ces bouteilles. Nous avons les bouteilles là peuvent aller avec le réchaud d'une plaque, de deux plaques, ou à l'aide de cette cuisinière qui est en face de vous là, qui est une cuisinière à gaz avec four. Donc ce sont des produits, pour répondre à votre question, que nous sommes venus offrir à la population et nos frères de Kikwit.
Et quel est le lien, Monsieur Madé, que vous faites aux produits que vous proposez avec la lutte contre les changements climatiques?
Voilà, merci pour cette question. Si vous ne m'avez pas posé cette question, c'est moi qui j'allais inverser le rôle, messieurs les journalistes. L'objectif principal des investisseurs de Coet Gaz, en dehors du fait que chaque commerçant vend d'abord son produit pour se procurer un peu d'argent, c'est d'abord la lutte contre le changement climatique. Et cette lutte, comme vous le connaissez, le monde entier, je l'ai dit tantôt dans la salle, est en train de lutter pour que nous puissions sauver l'humanité. Cette lutte, Côte Gaz s'est fait son affaire. Ce qui a fait que d'abord, avant de voir l'argent, les investisseurs que nous saluons en passant ont d'abord songé à préserver la nature. Je vais vous dire une chose, monsieur le journaliste. J'ai roulé la nationale numéro 1 de Kinshasa à Kikwit. Je fais un constat très très désolant. Dans tout le village que nous sommes passés, il n'y avait que des sacs de makala. Madé, je me dis, qu'est-ce que les gens sont en train de faire avec l'humanité? Et ces sacs de makala sont fabriqués tous les jours. Ça, je le vis hier quand je venais sur la route. Mais multiplier le nombre de sacs de makala fabriqués par jour, par mois et par an, et la production ne se fait pas pendant une année, c'est toutes les années. Allez-y comprendre où est-ce que nous mettons l'humanité. Raison pour laquelle Côte Gaz, en dehors du fait qu'il se fait un petit commerce, il est en train de préserver l'environnement, d'éviter à ce que la population puisse continuer à couper du bois éternellement. Ce qui fait que, actuellement, nous sommes en train de former, d'informer, de sensibiliser la population à la consommation de cette énergie alternative au courant électrique.
Pour réduire la forte demande en charbon de bois et en bois de chauffe, les énergies renouvelables demeurent une solution efficace, conclut l'ingénieur Idriss Moufouka. Nous rappelons qu'il est le coordonnateur du forum sur les changements climatiques dans la province du Kwilu.
Les énergies renouvelables, c'est parmi les alternatives qu'il faudrait utiliser pour réduire la pression sur la forêt. C'est parmi les astuces qu'il faut utiliser dans la réduction du gaz à effet de serre, parce que ça ne pollue pas l'environnement. C'est parmi des solutions qui sont utilisées dans la lutte contre la pauvreté, parce que quand on a l'électricité, on peut avoir de petites unités de production agroalimentaire. Les énergies renouvelables, c'est parmi les astuces utilisées pour la santé. Et donc, nous considérons que l'objectif 7 du développement durable, qui parle de l'accès aux énergies propres, c'est un objectif clé. Dès lors qu'il n'y aura pas de l'électricité, on n'aura pas une bonne santé, parce que certains hôpitaux n'auront pas des équipements ultra modernes pour pouvoir faire certains examens. Et dès lors qu'il n'y aura pas de l'électricité, et donc certaines écoles n'auront même pas des laboratoires ou des ateliers purement modernes. Et donc il faut commencer d'abord et par l'énergie. Et aujourd'hui, il faudrait diversifier l'utilisation du secteur de l'énergie, et utiliser l'énergie solaire, utiliser les biogaz, la biomasse et puis l'hydroélectricité. Et c'est dans ce sens-là que nous allons créer le boom du développement du Kwilu.
Et il faut dire en réalité que s'il faut sortir du contexte du Kwilu, les tableaux sont presque les mêmes à travers tout le pays. L'accès à l'énergie freine le développement de la population. Un appel à lancer aux décideurs et à la population congolaise concernant l'utilisation, parce qu'il y a ceux-là qui hésitent, hein, qui ne sont pas suffisamment informés sur les avantages liés à l'utilisation des énergies renouvelables.
Je demanderai à la population congolaise de ne pas croire aux mensonges que les gens racontent, que voilà, les énergies renouvelables sont trop chères. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, ça, c'est un appel solennel que je lance au gouvernement congolais. La question énergétique, c'est une question technique. Il ne faudrait pas la traiter avec une conception politique. Nous connaissons, et là je parle en tant qu'expert en énergie renouvelable, nous connaissons qu'il y a des investisseurs qui viennent au pays. Mais il faudrait que le président de la République puisse associer des experts qui sont dans les domaines. Dès lors que la question de l'accès à l'énergie pour tous sera traitée au niveau de la politique, au niveau des échéances politiques, il n'y aura pas de résultats. Il faudrait que cette question commence d'abord à être traitée au niveau technique, et au niveau politique, ça sera juste un appui pour la matérialisation de ces projets. Nous sommes très heureux d'apprendre qu'il y a, avec les fonds verts, 80 millions d'euros qui sont disponibles pour les énergies renouvelables en RDC. Mais nous demandons à ce que cette question, ces projets, soient d'abord traités sur le plan scientifique ou sur le plan technique. Qu'on élabore des projets concrets, qu'on ne mette pas des histoires qui ne tiennent pas debout dans ces projets juste pour récupérer de l'argent. Il faut qu'on constate que voilà, les projets sont faits d'une manière professionnelle, mais accompagnés par des politiques, parce que c'est Santé qui gère la plupart des institutions de la République, plus particulièrement dans les secteurs de l'électricité.
C'est par les plaidoyers de l'ingénieur Idriss Moufouka que nous clôturons les magazines Écho du développement consacré au changement climatique dans la province du Kwilu que vous a présenté Tati Mapoukou. Jean-Marc Matoua qui a coordonné et supervisé ces magazines, Bob Landou était à la prise des sons. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. À bientôt.